Courtillon, au pays des bis, le saut de la matta. Don, le grand Saint-Éloi lui dit au mon roi. C'est sur cet air d'allégresse qu'en ce grand dimanche de la Trinité, les cloches saluaient la venue du soleil à Saint-Romand d'Aillan. À ces notes perlées répondaient les envols et les carillons plus confus des cloches lointaines, montant droit des rives du Rhône ou franchissant l'espace de la vallée. Abondamment irriguée par ces pluies des jours précédents, la campagne étageait le long du coteau ses épaisses verdures, tantôt penchées sur les sentiers égouttés, tantôt enfouies sous les grands arbres rafraîchis. De toutes parts, on entendait rire les bis livrés à l'oisiveté. Toutes écluses lâchées, ils coulaient à plein bord, éparpillaient leurs flots en divers sens, se rencontraient, bifurquaient, inondaient les chemins pour aller concentrer leurs flots vagabonds tout là-bas, au rendez-vous de la Révoirie, cet étrange genre de réserve et où le garde-piste les envoie se déverser durant les nuits ou les journées de repos comme celle-ci. Et les gens se hâtaient vers le hameau paroissial. Il en venait de tous les points du riche coteau, de Bottirtris, de Brignoux, de Saxona, de Fortuno. Un léger fichu de soie aux épaules, les cheveux épinglés de laiton sous le large chapeau, les femmes cheminaient par groupes d'un pas pressé, toutes vêtues de même, sans différence de rang, d'âge et de taille. Des deux mains, elles tenaient sur leur tablier d'indienne flottant à la brise leur chapelet de Sainte Brigitte, le petit livre d'heures fermé sur un piquet de romarin et de hyet. Plus lent, les hommes les suivaient, tant bien que mal, avec de lourds mouvements de hanches. Les vieux et les mariés devisaient du bétail et des montagnes, quasi prête pour l'impage, car ce mois de juin tirait vers la fin. C'était là le sujet du jour, celui qu'à toute rencontre on ressasse jusqu'à ce qu'interviennent les préoccupations d'une autre période de travail. Enfin, l'essentiel était que pour le moment, les foins s'annonçaient bien. Les jeunes, eux, s'avançaient sans hâte. Crânes et joyeux, une main à la moustache, l'autre à la pipe, ils se taquinaient à propos de fréquentation, et ils riaient surtout à grands éclats, au moindre propos du coq, un bon géant satisfait de son sort, qui s'affublait d'un large pantalon militaire sans passepoil, et religieusement se posait sur l'oreille un grand chapeau à plumes de jais. Sur la placette, devant l'antique maison communale, où chaque groupe trouvait réunis les amis venus des divers autres hameaux, c'était encore les mêmes choses qui se redisaient, comme dans un chœur général dont chaque partie viendrait d'être répétée à part. Puis, un nouveau frelon des cloches, les dernières cohues s'engouffraient dans le sanctuaire campé avec hardiesse sur le ravin, et dont le fronton porte ce sévère avertissement. Ce lieu est saint et terrible, car c'est ici la maison de Dieu. Bien que momentanément désert, les hameaux semblaient révéler plus fidèlement que jamais ce vieux valet confiant, insoucieux et un tantinet fataliste d'autrefois, dont à peu près seul il reste encore les obstinés interprètes. Les fenils des broyers, ouverts au plein vent, formés d'une toiture posée sur quatre angles en maçonnerie, annoncent la façon dont les Orientaux conçoivent toujours la vie. Les maisons brillantes attestent qu'on ne saurait y voir de voler, là où chacun est fier de ce qu'il a, et les boîtes postales que la jeunesse éventra un soir à coups de poutre, proclament leur mépris systématique pour les interventions superflues du jour d'aujourd'hui. que les adorateurs du passé ne se hâtent pourtant pas trop de se réjouir. Il y a quelques années à peine, en plein Saint-Romain, derrière la maison de Dieu et la maison de commune, un autel avait hissé sa haute toiture, qui elle aussi chercha à trôner sur le ravin. Quel que soit le sort éprouvé depuis par le moderniste qui l'édifia, les Ayantos sembleraient redouter qu'il ne chante dans sa tête quelque autre devenir restaurer cette enseigne abolie. Selon eux, Ayant a ce qu'il lui faut, sans autel, d'autant plus que le curé Père Ruchot n'a point discontinué de pratiquer l'hospitalité traditionnelle de ses prédécesseurs. Le châtelain, comme on appelle ici le juge de paix, s'est heureusement occupé de nous. Le curé, qui doit savoir ce qu'il en est d'avoir charge d'âme, l'a dispensé du début de la messe ainsi que de la procession pour qu'il ait le loisir de nous installer chez lui et de nous mettre au sec après tant de culbutes le long des chemins inondés par les bisses. Du reste, le châtelain nous rejoindra sitôt après les criers publics. Le magistrat tint parole et une heure plus tard, nous étions acheminés vers le ravin de la Lienne. Bien entendu, les propos retombèrent sur les bisses. Au bout de quelques kilomètres de marche, du seuil de la forêt, le châtelain nous montra d'abord sur l'autre flanc de la gorge, deux longues lignes horizontales qui barraient de très haut les précipices de Connaraith, profonds de 1000 mètres. « Celui d'en haut, dit-il, c'est le bis du Leidson qui va irriguer au loin les moyens de la Lance. Il est alimenté par les lacs de la plaine Morte, dont les Bernois revendiquaient autrefois les eaux, détournées et accaparées à leur profit par des canaux souterrains. Mais la plaine Morte, cette grande étendue de rochers nus, on avait bien vu d'autres, des lacs, ne serait-ce que des chaudières vides où on ne disait-on pas que les sorcières faisaient cuire les grelons avant de les semer sur les vignobles. Celui que vous voyez plus bas, à 500 mètres au-dessus, dans la forêt du train, c'est encore une bise des Lénards. Les matins en ont même un troisième, plus bas, oh, beaucoup plus bas, et qu'on ne peut pas apercevoir d'ici, le Saint-Léonin. Ces bisses, continue le châtelain, enferment tous les secrets de l'histoire de nos populations, qui sans eux n'auraient pas pu se développer. Nos descendants s'en serviront à leur tour, sans en connaître d'autre façon le rôle passé que par des vestiges de fragments légendaires. Le Luiston raconte les hauts faits des Lansards en lutte contre les Bernois et toujours triomphant. Et l'autre bise là-bas, celui de la Riouta, atteste aussi aux Lansards une victoire contre nous autres à Yanto. Il est vrai que pour faire leur légende et leur gloire, ils ont pioché la Bible. En contestation avec nous, les Lansards choisirent pour champion un gringalet qui maniait en guise de fronde une liane ou une riotte et qui d'un coup de cet engin enfonça une pierre dans le front du colosse délégué par les Ayantos. C'est tout bonnement l'adaptation des hauts faits de David et du géant Goliath, mis au goût de la contrée. Il n'a donc pas besoin d'être autant fier. De ce côté de la ravine, reprit au bout de quelques instants le châtelain, nous avons aussi nos légendes sur les bisses. Mais nous ne sommes pas si triomphants. Comme nous plongions plus loin dans la forêt et qu'il s'agissait de s'observer, le magistrat s'arrêta sur cette simple considération. Mais, arrivé le premier au tournant d'une paroi de rocher, il salua l'endroit en montrant à deux pas une superbe cascade. le sceau de la bâtarde !» déclara-t-il. En effet, au détour de la paroi, le canal que nous avions suivi jusqu'ici en le remontant prenait fin en un bassin enfermé dans lequel les eaux venaient se précipiter d'une hauteur de 700 pieds. D'en bas, on les voit s'épancher en un large écheveau dont l'air de la gorge voisine soulève les crins et les tient suspendus en nappes énormes comme des oiseaux qui éploreraient leurs ailes dans l'appréhension de toucher la terre. Et tout autour, une poudre humide s'irisait sous un rayon du soleil au déclin. « Et maintenant, voici, » reprit le châtelain, en se mettant en devant, voire d'aborder le récit. « Sur ce rocher, là-haut, au couchant de la cascade, est un plateau formant une magnifique clairière. Aujourd'hui, on y voit gîter plusieurs particuliers, mais au moment dont je vous parle, oh, il y a cela des temps et des temps, il n'y avait là qu'un chalet et qu'un moyen appartenant à la même particulière. C'était d'une riche particulière en même temps qu'une plaisante grivoise, la plus riche, la plus belle, la plus forte de la commune. Elle était justement bonne à prendre. On ne parlait que d'elle, des deux côtés de la Lienne. Sa veillée était la plus fréquentée de nos moyens. On y accourait de Ravinet, de Chavin, de Chitadelet et même d'Anzor. Vers ce temps, on devait construire le grand bis que vous avez dû traverser en venant, qui va du bas au Raoui jusqu'au-dessous de Griminat. Mais si vous vous rendez certainement compte que pour tracer le chenal à travers les rochers, les gens d'ici n'étaient pas assez savants. Il fallut faire arriver un ingénieur de loin, très loin. Bien sûr, après avoir passé ses journées dans les précipices, cet étranger, qui était jeune, n'eut bientôt plus d'autre plaisir que de venir s'asseoir près de la belle grivoise. Ceux de l'endroit ne voyaient pas ça d'un très bon œil. Mais est-ce qu'il n'était pas ingénieur? Et ma foi, comme on avait tous besoin de lui. Toute la soirée, il la regardait et lui répétait « Je vous aime, je vous aime. » La grivoise répondait « Si vous m'aimez, faites-le voir. » Ce qui se passa entre eux, nul ne l'a su. Longtemps après le départ des autres, il restait avec elle. D'ailleurs, fatigué de toujours entendre cette ritournelle, en même temps que découragé de voir qu'elle lui faisait bon semblant, ceux d'ici cessèrent d'y aller. Même ils critiquèrent beaucoup la conduite de la jeune fille. Tous les dimanches, la jeunesse se rassemblait sur son passage pour voir si elle aurait encore le front de descendre à la messe avec le ruban blanc à son beau chapeau. Mais la matine avait beau devenir rouge comme un pavot, toujours ce ruban neuf était plus blanc qu'une fleur de lys. Cependant, les travaux du bis avançaient, en dépit de tous les retards de l'ingénieur, car il avait surtout modifié son plan, décidé qu'il était de rompre toutes les difficultés pour faire passer le canal juste au sommet du Mayen de la Grivoise. Il ne restait guère plus pour sortir des rochers qu'un tout petit bout d'arête à percer. Ah, quand on pense au foin qu'un tel Mayen aurait alors pu donner, quand on y pense, que dût-il encore se passer? Les travaux furent suspendus, retardés, puis l'ingénieur disparut quelque temps. Un jour, il revint avec beaucoup d'argent qui faisait tinter aux yeux et aux oreilles de la grivoise. Tout le monde crut cette fois que ça y était. Quand un dimanche, n'y tenant plus, il alla l'attendre devant la maison de commune pour se jeter à ses pieds en disant à haute voix devant tous les gens, « je t'aime, et toi ?»« Moi, répondit-elle, je n'ai pas changé. Je n'aime que de la bonne manière, et alors pour toujours, sinon jamais de la vie. » La matine avait tenu bon. Elle gardait le droit de porter le ruban blanc. Sur cette déclaration sentencieuse, le châtelain fit une pause prolongée. Enfin, il reprit. Alors, tout éploré, l'ingénieur prétendit qu'il était pressé de partir, qu'il n'y avait décidément pas moyen de percer le bout du roc, car il y avait de ce côté beaucoup trop de dureté. Et c'est pour laisser le maillin de la grivoise dans la sécheresse qu'il a jeté le courant par-dessus ce précipice. Et les Ayantos ont recueilli la cascade, ici, à 700 pieds plus bas, et cette chute a conservé le nom du Saut de la Pucelle, en patois, Saut de la Matta.